agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes Mancelles 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpes Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes Mancelles.
Après avoir reçu Baptiste Tranchambre avec ses conseils sur la qualité de l'air et Sabrina Poirier concernant les éco-gestes de manière générale, nous avons le plaisir de la retrouver à nouveau sur l'antenne de Radio Alpes Mancelles 106.3 FM pour nous parler aujourd'hui de cette matière si précieuse à l'homme. Je veux bien sûr parler de l'eau. Sabrina, bonjour.
Bonjour.
Nous vous retrouvons aujourd'hui pour sensibiliser et conseiller nos auditeurs autour de la question de l'eau et de son utilisation.
Oui, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un contexte assez particulier où nous sommes en pénurie d'eau, malgré enfin quelques jours de pluie qu'on a eu ces jours derniers. Notre volonté, c'était voilà de sensibiliser vos auditeurs à la consommation de l'eau de manière générale.
Ben justement, on peut peut-être commencer par une présentation générale.
Oui, alors en fait, à savoir que l'ADEME a indiqué des données de consommation par jour par personne. Donc un Français consomme environ 148 litres par jour, ce qui correspond par an à environ 54 mètres cubes. Donc rien que dans ses usages en fait du quotidien. Cette consommation d'eau, elle est répartie avec environ 50 litres d'eau destinée à l'eau chaude sanitaire, donc pour la douche, le lavage des mains, etc. Et en fait, dans ces 148 litres, il y a 40% qui sont utilisés pour se laver. Donc de manière générale, c'est souvent la douche, mais ça peut être aussi le bain, etc. 20% juste pour évacuer l'eau des toilettes. 12% pour le lavage du linge, 10% pour le lavage de la vaisselle et 7% pour la consommation en direct, donc ce qui correspond à la boisson et à la cuisine. Donc en fait, l'eau, elle est rendue potable pour seulement 7% de notre consommation où elle est strictement nécessaire à être potable. Donc ça, c'est une notion qui est, à mon sens, importante. Parce que voilà, on a tendance à pas se rendre compte que l'eau que l'on consomme de manière générale, elle est potable, mais finalement pour un usage qui est assez restrictif, qui n'est que de 7% de notre quotidien. À savoir que le coût de l'eau, il varie selon les endroits où nous sommes situés, selon en fait la disponibilité de la ressource, son traitement aussi. Donc parfois on n'a pas de retraitement de l'eau si on est en assainissement de nos collectifs. Et puis ça dépend également du gestionnaire de l'eau.
Vous souhaitiez peut-être nous donner quelques précisions, quelques gestes en tout cas qui pourraient être effectués par tout à chacun pour diminuer sa consommation d'eau potable?
Oui, il y a quelques gestes, donc certains correspondent notamment aux éco-gestes liés à la précédente émission sur les énergies, parce que voilà, l'énergie et l'eau, finalement, ce sont des choses qui sont très associées. Là, si on se concentre exclusivement sur l'eau, pourquoi pas récupérer l'eau de la douche et l'évacuer dans les WC. Alors ça peut faire rire des gens, mais faire pipi sous la douche, donc bien sûr en début de douche, à savoir qu'il y a plusieurs années, le Brésil avait fait une campagne publicitaire pour inciter ses citoyens à faire pipi sous la douche de manière à limiter une chasse d'eau par jour, donc ce qui n'est pas négligeable quand tout le monde s'y met. Ça peut être aussi s'engager à réduire le nombre de douches par semaine, Pourquoi pas, par exemple, démarrer par un jour dans la semaine où on ne prend pas la douche, mais on va plutôt faire ce qu'on appelle la toilette de chat, donc ce qui permet de limiter le nombre de quantités d'eau utilisée. Et puis, c'est bon pour la peau, en général. Surtout, éviter de prendre des bains. Quand on aime prendre des bains, donc l'idée, c'est pas d'arrêter de se faire plaisir, je dirais. Et voilà, hein, si on aime prendre des bains, on en prend, mais peut-être réduire le nombre.
C'est vrai que quand on a des enfants, c'est pas toujours simple.
Oui, c'est ça. Ben, très souvent, avec les enfants, c'est un bain pour l'ensemble des enfants. Donc finalement, la quantité d'eau est peut-être plus faible que si ils prenaient leur douche chacun. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à voir et peut-être réduire la quantité d'eau du bain. Déjà, ça, c'est parfois un petit plus, en fait, mettre quelques litres en moins pour chaque bain.
Et selon la composition des produits utilisés pour le bain, l'eau peut être réutilisée.
Oui, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est très bien, en fait. Voilà, si on n'a pas des produits qui sont trop nocifs, comme vous dites très bien, on peut les réutiliser pour d'autres usages. Et donc, finalement, on est économe déjà de fait. Des choses aussi, éviter de faire couler l'eau quand on se rince les dents, mais plutôt utiliser un gobelet. Si on n'a pas de mousseur ou de réducteur de débit, l'eau, c'est un débit de 12 litres par minute. Donc quand on laisse couler l'eau, ben voilà, on perd d'autant. Et si on prend juste un gobelet pour se rincer les dents, en général ça suffit, et on va juste utiliser la consommation, donc la quantité du gobelet. Donc voilà, ça va être quelques millilitres, et donc c'est déjà très très bien.
Après, comme vous le disiez, l'utilisation des mousseurs permet quand même de réduire très significativement le nombre de litrages par minute, parce que je crois que selon les mousseurs, c'est entre 4 et 6.
Oui, c'est ça, exactement. Donc on va plutôt favoriser un mousseur dans la cuisine vers 6 litres. Certains sont à 8 litres, donc ça va dépendre vraiment des usages que l'on a. Et puis, dans la salle de bain, il y en a même des plus petits. Les plus petits que j'ai à ma connaissance, c'est des 2 litres et demi. Donc ça, c'est très bien pour remplir le gobelet, justement, ou se laver les mains. Il n'y a pas besoin d'un gros débit d'eau. Il suffit juste que l'eau puisse couler. Pour la cuisine, c'est plus délicat parce que quand on doit remplir la carafe d'eau et qu'on attend plusieurs moments ou bien faire remplir la cocotte minute ou la bouilloire, ça commence à être long d'avoir un débit que de 2 litres et demi par minute. C'est au moins 30 secondes pour remplir un litre d'eau, donc ça commence à avoir un ressenti assez long. Ce qui peut être fait aussi, c'est récupérer l'eau froide quand on attend l'eau chaude sanitaire. Donc là, par exemple, j'ai besoin d'eau chaude tout de suite pour la cuisine ou bien pour la douche. Et ben, j'adopte un contenant, voilà, merci, qui permet de récupérer cette eau froide et de pouvoir lui donner un second usage plutôt qu'elle soit évacuée directement par les évacuations et sans avoir apporté quelque chose. Donc ça peut être intéressant.
Oui, ce qu'il faut rappeler comme ça, à peu près 2 litres 7 ou 3 litres 7 d'eau qu'on perd à chaque douche en attendant l'eau chaude.
C'est ça, et actuellement, il y a un projet justement de récupération d'eau pour la douche dans une carafe pour pouvoir la réutiliser. Et donc une personne en Sarthe propose en fait l'acquisition de ce type de matériel.
Monsieur Lemonnier,
voilà, c'est ça.
Oui, avec la société Plus d'eau.
Oui, c'est exactement ça. Et donc son objectif, c'est avant tout de faire prendre conscience des économies d'eau et d'éviter de perdre l'eau qui est un bien très précieux. On peut aussi utiliser que la quantité nécessaire pour cuisiner. Donc parfois, on a tendance, quand on veut faire bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes, à prendre une grosse casserole, alors que finalement, on va avoir une petite quantité de pâtes à faire cuire. Donc soyez vigilants par rapport à cet usage, parce que l'eau bouillie, en fait, elle va être jetée en direct. Et d'ailleurs, de manière générale, quand l'eau est bien chaude et bouillante, cette eau de cuisson, quel que soit l'aliment, on peut l'utiliser pour tuer les mauvaises herbes. plutôt que d'utiliser des produits phytosanitaires, eh bien, bah, dès que l'eau est encore chaude, elle va griller l'herbe. Et donc, en fait, pour les endroits où on n'a pas envie d'avoir de l'herbe chez nous, eh ben, on peut réutiliser cette eau.
Notamment sur les terrasses, entre les dalles.
Oui, c'est ça, où on n'a pas forcément envie que l'herbe soit présente. On peut utiliser l'eau de rinçage des légumes pour arroser nos plantes, donc que ce soit les plantes vertes dans le logement ou bien le jardin, si on a une surface de jardin. Récupérer l'eau de pluie aussi, avec des mini-récupérateurs, pour justement arroser ces mêmes plantes ou le jardin. Laver sa voiture dans une station de lavage. Très souvent, en fait, l'eau est recyclée dans les stations de lavage, donc ce qui fait qu'il y a très peu de pertes d'eau, contrairement à si on le fait en direct chez nous. Et il existe aussi des manières de laver sa voiture sans eau, avec des chiffonnettes et des produits spécifiques. Donc il y a des sociétés qui proposent de laver votre voiture sans consommation d'eau ou avec très peu de consommation d'eau. Donc pensez à vous rapprocher de ces sociétés ou de trouver des produits, si vous voulez le faire vous-même, qui permettent voilà, de bien nettoyer la voiture sans utiliser de l'eau.
Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau. La rosée sur les herbes et les fleurs, la nature et ses mille couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. protège bien au chaud.
C'est de l'eau, c'est de l'eau.
Si on peut passer aussi à l'entretien de manière générale, une chose qui est très importante, où on a tendance à pas faire gaffe, c'est faire la chasse aux fuites d'eau. Elles sont très consommatrices d'eau et bah, parfois on s'en rend pas compte parce que ça semble insignifiant, mais cumulé sur une année, ça peut être assez important. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le robinet qui goûte, par jour, ça peut être jusqu'à 140 litres d'eau. Donc voilà, c'est du goutte à goutte, hein, c'est une goutte toutes les secondes. Et donc finalement, bah, ça peut sembler insignifiant parce que comme ça, visuellement, ça semble pas grand-chose. Mais cumulé dans la journée, c'est énorme. Et ce qui peut représenter 50 mètres cubes d'eau par an. Et si vous vous rappelez, ce que j'ai dit en début d'émission, c'est qu'un Français moyen consomme 148 litres d'eau par jour. Donc finalement, une fuite goutte à goutte, ça correspond à la consommation d'un Français moyen.
Ce qui est énorme.
Oui, c'est ça. Donc changer un joint, finalement, ça peut être intéressant pour réduire ça. Donc vous pouvez vous rapprocher de plombiers qui peuvent les changer si vraiment vous ne sentez pas capable de le faire et pour éviter de faire plus de dégâts chez soi. Pour continuer dans les exemples de fuite, un mince filet d'eau, donc là on n'est plus du tout sur du goutte à goutte mais on est vraiment sur une fuite constante, là c'est 380 litres d'eau par jour, 640 mètres cubes dans l'année. Et les chasses d'eau, c'est la pire des fuites possibles. Là, quand on a une chasse d'eau qui fuit et qui peut être assez importante, ça peut être jusqu'à 600 litres d'eau par jour, soit 220 mètres cubes par an. Donc on est sur des consommations qui sont quand même très très élevées.
Justement, je me permets de rebondir, là on parle de chasse d'eau. On connaît tous, hein, on va dire, ce système de consommation à deux boutons pour la petite et la grosse commission. Pour ceux qui n'ont pas ce système, il y a aussi la possibilité pour certaines toilettes de contrôler la hauteur du flotteur,
oui,
ou de mettre une bouteille remplie d'eau ou une brique pour faire du poids dans la cuvette pour consommer un petit peu moins d'eau lors d'une
chasse. En fait, c'est utiliser le volume de la cuvette en mettant une bouteille d'eau. Alors je déconseille plutôt la brique parce que si c'est une vraie brique, donc c'est une matière poreuse et elle peut boucher le trou d'évacuation de cette cuvette, parce que en fait la brique va s'effriter. Donc il vaut mieux une bouteille d'eau remplie, parce que sinon celle-ci va flotter et donc il n'y aura pas d'intérêt, et c'est d'autant d'eau en moins consommée. Et puis pour ceux qui le souhaitent, il existe deux systèmes, donc un sac à eau qui a le même principe que la bouteille d'eau, mais qui prend moins de place en soi sur la largeur, mais il va être plutôt sur une épaisseur en fait. Donc parfois il est plus adapté par rapport à la configuration de la cuvette. Et puis il y a des systèmes de sorte de poids que vous pouvez installer, où en fait quand vous maintenez en appuyant sur la cuvette, et bien du coup l'eau s'évacue, et dès que vous relâchez, le poids fait que en fait c'est comme si vous arrêtiez, vous stoppiez le principe de cuvette, enfin de tirer la chasse, et donc vous avez moins d'eau qui va couler pour chacune des chasses d'eau. Donc là, ces systèmes-là vont dépendre des cuvettes que vous avez, donc c'est pas adapté à toutes les cuvettes, mais bon, ça existe. Et donc c'est une occasion pour éviter de changer le toilette, d'installer ce genre de système. Pour on peut avoir des fuites d'eau sans s'en rendre compte. Dans ce cadre-là, on peut les repérer. Donc par exemple, en relevant le compteur d'eau le soir, et donc avant d'aller se coucher, et de relever le compteur d'eau le lendemain matin pour voir si il n'y a pas une modification. Donc attention, ça veut dire que derrière on n'a pas utilisé l'eau dans la nuit, par exemple on n'a pas tiré la chasse d'eau pour la nuit, de manière à s'assurer qu'il n'y a eu aucune consommation, et vérifier vraiment qu'on a une fuite. Donc ça ne permet pas de trouver la fuite, ça permet juste de savoir qu'il y en a une. Après, à vous de faire les enquêteurs et de trouver la fuite chez vous, et c'est pas forcément le plus facile à trouver. autre élément, certaines installations, donc c'est très souvent, plus souvent dans les maisons, ont des pressions d'eau qui sont plus importantes que, la norme. Enfin, en France, la norme, c'est maximum 3 bars dans les logements en pression d'eau. Et parfois, on a des pressions qui sont plus importantes. Et donc, ce qui fait qu'on a de l'eau qui va arriver plus vite dans nos canalisations. Et donc, on va consommer plus d'eau pour chacun des usages. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un plombier qui vous permet de réduire cette pression si besoin. Alors voilà pour les idées d'entretien liées au réseau d'eau de manière générale. Pour aller sur une information plus générale, vous pouvez aussi éviter d'utiliser des produits chimiques dans l'usage que vous en avez, que vous allez rejeter dans l'eau, donc que ce soit pour l'entretien. Tout à l'heure, vous me parliez du savon. Vous avez des savons qui sont moins nocifs pour l'eau que d'autres, et en général aussi moins nocifs pour la peau. Et puis, tout ce qui est produit d'entretien pour le lavage du sol ou pour le nettoyage au quotidien ou les lessives, eh bien, plus on limite ces produits chimiques, plus on facilite le retraitement. À savoir que, par exemple, quand on a une installation de phytoépuration, il y a des produits qui sont à bannir, comme l'eau de Javel, etc., parce que ça va tuer les plantes, et derrière, en fait, les plantes ne pourront plus faire le retraitement. De même, quand on est en assainissement non collectif, l'eau de Javel a tendance à tuer les bactéries, alors que, en fait, dans la fosse septique, ce qui est important, c'est d'avoir des bactéries qui vont consommer les déchets et qui vont permettre de réduire la quantité d'eau dans celle-ci. Donc très souvent, les gens qui utilisent de l'eau de Javel, derrière, vont devoir remettre des bactéries pour leur fosse septique.
Donc, globalement, il faut privilégier les produits naturels.
Oui, voilà, tout à fait. Même si certains produits sont naturels, comme l'eau de Javel, mais voilà, c'est des produits qui sont pas forcément très très bons. Et évitez en tout cas les produits où vous avez beaucoup de logos qui permettent de dire attention, irritant, etc. Et pour obtenir des informations sur la qualité de l'eau dans notre commune, vous pouvez retrouver en fait une carte sur le site du ministère de la Santé, en tapant dans un moteur de recherche « qualité de l'eau, ministère de la Santé », ou bien même une carte interactive sur le site de l'association UFC Que Choisir. Et ça vous permet, selon certains critères, d'avoir des informations sur la qualité de votre eau. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la date du dernier relevé pour l'analyse de cette qualité d'eau. En période de sécheresse, vous pouvez aussi consulter le site de la préfecture de la Sarthe, où vous allez avoir les informations si le cours d'eau, et donc où vous êtes situé, est en zone sécheresse, et quel niveau. Et en fait, le site de la préfecture vous indique les comportements adoptés selon les niveaux de sécheresse à l'endroit où vous êtes situé. Donc c'est intéressant de pouvoir les consulter.
Et puis à titre informatif, on peut également préciser que le président de la République actuelle a annoncé la mise en place d'un éco-watt de l'eau afin d'améliorer la gestion de l'eau. Donc ça a été énoncé, on va dire, en date du 30 mars. Et normalement, ça sera effectif pour cet été.
Oui, c'est ça. Et l'objectif de l'éco-watt de l'eau, c'est un peu comme l'éco-watt de l'énergie, dont on a beaucoup entendu parler cet hiver, où en fait, il permet d'avoir des informations sur les tensions de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois un site internet et une application possible. Et donc, on peut être informé au quotidien de ce qui se passe près de chez nous.
Puis ça permet à tout un chacun aussi de se sentir plus responsable de sa consommation.
Oui, tout à fait. Pour conclure, une notion dont on n'a pas conscience et pourtant qui est très importante et pour laquelle on a un impact, mais qui n'est pas direct, c'est la notion de ce que l'on appelle de l'eau virtuelle. En fait, c'est l'eau qui est consommée par différents éléments pour la fabrication de quelque chose. Alors pour être plus clair, par exemple, quand je consomme un kilo de bœuf, eh bien, l'eau virtuelle consommée pour fabriquer ce kilo de bœuf et qu'il aille jusqu'à mon assiette a été de 15 000 litres d'eau pour ce kilo. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc finalement, il n'y a pas que notre comportement à la maison qui permet de réduire, c'est aussi notre moyen de consommation. Donc on peut retrouver ces informations assez facilement sur les consommations d'eau virtuelle. Donc là, j'ai parlé de bœuf, mais si on parle de poulet, par exemple, pour la même quantité, donc pour un kilo de poulet, bien, du coup, ça impacte cette eau de 4300 litres. Beaucoup moins, trois fois moins. C'est un impact quand même. Si je prends l'exemple du pain, un kilo de pain, c'est 1600 litres d'eau virtuelle. On va sortir de la nourriture, mais on va prendre les habillements, par exemple. Une chemise en coton, elle va consommer l'équivalent de 2500 litres d'eau. Un kilo de papier, donc on consomme tous un peu de papier, lui, le kilo, c'est 500 litres d'eau. Un ordinateur, lui, va consommer 20 000 litres d'eau pour sa fabrication. On a aussi les mêmes données pour les smartphones, qui, eux, les smartphones, c'est 910 litres d'eau. Et de manière générale, un Français va avoir en impact annuel 1875 mètres cubes par rapport à toutes ces consommations en fait d'eau virtuelle dont on n'a pas conscience parce que finalement c'est pas concret, voilà le café, etc., la farine, tout ça nécessite de l'eau pour son procédé de fabrication, de transformation, et en fait, sans s'en rendre compte, on impacte sur cette consommation d'eau générale.
Mais ça fait quand même réfléchir à comment consommer mieux.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est un impact qui n'est pas visuel et pourtant qui est assez important, en fait. Parce que par rapport aux 54 mètres cubes que l'on consomme en direct, là, on est à 1875 mètres cubes de consommation indirecte d'eau.
Sabrina, je vous remercie pour ces nombreux conseils et je vous dis à très bientôt sur notre antenne.
À bientôt.
Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau des lits qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau des lits qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh, c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau qui pue, l'eau qu'elle en a marre d'être bouillue. Hey! Avec la mienne, c'est l'eau qui me va, celle que je vois comme un poème.